Donc, à ce point-ci, dans notre étude du livre d'Exode, le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte, comme on l'a vu. Et ensuite, Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont déjà vécu une série d'épreuves, des temps difficiles, mais où ils ont pu voir la délivrance de Dieu. Ils ont été face à face avec une mer, une grande mer, la mer des joncs, ou mer rouge, ça dépend de la traduction. Et Dieu l'a ouvert devant eux. Ils ont pu traverser à pied sec. Il a refermé sur leurs ennemis aussi. L'armée égyptienne a été complètement détruite. Ensuite, Dieu les a conduits dans un endroit où l'eau était amère et ils craignaient de mourir de soif. Mais Dieu l'a changé en eau douce et ils ont pu boire. Et même ensuite, il leur a fait la grâce de les conduire dans un oasis où ils ont pu se reposer, reprendre des forces. Ensuite, il les a conduits dans une autre région du désert, le désert de Sin, où ils craignaient de mourir de faim. Et Dieu les a nourris avec des cailles, des genres de petites perdrix. Et il a commencé aussi à leur donner la manne quotidienne à tous les jours. Donc Dieu les a délivrés du danger de mourir de faim. Et les Israélites doivent maintenant repartir de cet endroit pour continuer leur marche vers la terre que Dieu leur a promise, le pays de Canaan. Donc lisons ensemble Exode chapitre 17. On va étudier ce matin les sept premiers versets. Exode 17, versets 1 à 7. Exode 17, verset 1. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin, selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Rephidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Et ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Mais Moïse leur répondit, « Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Mais le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils, mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. » Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu avais frappé le Nil et tu avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Meribah, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? » Ils sont arrogants quand même. Et c'est la troisième reprise qu'ils tombent dans le péché du murmure. On voit ici, premièrement, que c'est Dieu qui les conduit à Rephidim. Même s'ils entrent en contestation contre celui qui les guide, contre Moïse, c'est clairement spécifié dans le texte. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin selon l'ordre de l'Éternel. C'est Dieu qui a voulu les conduire à cet endroit-là, à Rephidim. Rephidim qui veut dire lieu au pluriel, le lieu de repos ou espace de repos. Ça semblait une belle destination. Mais ils ont la mauvaise surprise en arrivant sur place de voir qu'il n'y a pas d'eau. On peut se reposer, mais sans eau, c'est pas évident. Et jusqu'à un certain point, on peut comprendre leur colère. Leurs grands besoins. Ils tombent en mode survie, une fois de plus. Mais c'est Dieu qui les avait conduits là. On comprend qu'il les mettait à nouveau à l'épreuve. Ça fait à plusieurs reprises qu'ils sont mis à l'épreuve et à chaque fois, le but est de tester leur foi, leur fidélité à Dieu. Est-ce qu'ils vont continuer de croire que l'Éternel qui les a libérés est encore là? Et malheureusement, on voit qu'ils échouent le test. On voit que cette épreuve-là révèle l'état médiocre de leur foi, même presque la nullité de leur foi. Premièrement, on voit au verset 2 qu'il conteste. Le peuple entre en contestation avec Moïse. Donc, ouvertement, ils lui font des reproches. On voit au verset 3 aussi, le peuple était pressé par la soif et le peuple murmurait contre Moïse. Murmurer, c'est encore plus fort. Là. C'est dire de, on va le clairer, lui. On va changer de chef, on va s'en retourner. C'est vraiment une attitude de rébellion. Un vote de non-confiance. Et ils se révoltent dans leur cœur et même verbalement. Et on voit que tout le peuple est uni dans cette mauvaise attitude. Et ils vont, on le comprend, jusqu'à menacer Moïse. Parce que lorsque Moïse se tourne vers l'Éternel, il dit, encore un peu, ils vont me lapider. Il y avait sûrement de bonnes raisons de croire cela. Là. Le peuple était tellement en colère contre lui, peut-être même certains l'ont menacé directement, verbalement. On va te faire mourir. Lapider, c'est de lancer des pierres jusqu'à ce qu'on en meure. C'est pas un sort qui est drôle. Et donc, on voit leur attitude mauvaise, leur manque de foi qui les conduit à de graves péchés. C'est la troisième fois, comme on l'a vu, qu'ils tombent dans le péché du murmure. Mais ici, Moïse donne une indication supplémentaire en quoi le murmure et leur mauvaise attitude est grave. C'est qu'ils sont en train de tenter Dieu. On l'avait déjà deviné dans les occasions précédentes, mais ici, Moïse le dit clairement. Il dit, pourquoi tentez-vous l'Éternel? En d'autres mots, pourquoi mettez-vous la patience de Dieu à l'épreuve? Vous êtes en train de tester la patience de Dieu, comme des enfants parfois qui testent la patience de leurs parents, qui tentent leurs parents. Et ils réclament en réalité, lorsqu'ils mettent Moïse au pied du mur, « Donne-nous de l'eau ». Dans le fond, c'est comme s'ils étaient en train de forcer la main de Dieu, le pousser à réagir. On ne sait pas à quel point ils étaient conscients qu'ils menaçaient Dieu ou qu'ils le lançaient en défi, mais c'est à cela que ça revenait, en fait. Ils pressaient Moïse, qui leur parlait au nom de Dieu, « Agis, sinon, tu vas mourir. » Dans le fond, c'est comme si maintenant, eux, ils prenaient le contrôle. « Là, c'est assez, on va mourir de soif, on renverse les rôles. On prend la direction, donne-nous de l'eau. » C'est ça, en réalité, une attitude qu'on est en train de tenter Dieu en lui donnant des ordres, alors qu'au contraire, ils auraient dû patiemment attendre la délivrance de Dieu. Avec foi. Pourquoi douter que Dieu va les délivrer? Il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il est là, qu'il est tout-puissant. Il les a même déjà délivrés du danger de mourir de soif en leur donnant de l'eau. Pourquoi il ne pourrait pas le faire à nouveau? Mais ils veulent lui forcer la main, l'obliger à intervenir. Et même, ils vont jusqu'à dire, on voit au verset 7, « L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? » En fait, ils demandent une preuve même. Ils exigent une preuve de la part de Dieu. Si Dieu est vraiment ici, là, qu'il vienne à notre secours, qu'il nous donne de l'eau. C'est vraiment une attitude effrontée, arrogante. La créature qui donne des ordres au Créateur. Cette scène-là à Massa et à Meriba là, est devenue même un symbole d'un exemple à ne pas suivre. On s'y réfère souvent dans la Bible. Et d'ailleurs, Dieu ne manque pas de le rappeler plus tard, dans Deutéronome 6, versets 16 et 17. « Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez bien les commandements de l'Éternel, votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'il vous a commandées. » Donc, pour Dieu, il dit, « Vous ne tenterez pas l'Éternel. Au lieu de cela, vous allez obéir à toutes ses prescriptions et ses commandements. » Donc, on voit une autre explication de qu'est-ce que ça signifie « tenter Dieu ». C'est de ne pas lui obéir, de désobéir volontairement, comme pour voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va vraiment appliquer des conséquences? Est-ce qu'il y a vraiment des conséquences à désobéir à Dieu? Est-ce qu'il va punir? Est-ce qu'il va sévir? Est-ce qu'il va se mettre en colère? C'est ça, en fait, tenter Dieu, c'est d'agir délibérément contre sa volonté, en voulant accomplir notre propre volonté, et voir comment Dieu va réagir. C'est se rebeller, en fait, en faisant consciemment ce qui est mal. On se souvient à l'époque du Nouveau Testament que ça n'a pas changé. Vous vous souvenez d'un épisode dans la première Église où Ananias et Saphira ont tenté l'Éternel en mentant, en cachant une partie de l'argent de la vente de leur champ. C'est pas que c'était mal d'en garder une partie, mais c'est qu'ils ont prétendu qu'ils donnaient tout en offrande à l'Église pour Dieu. Ils en avaient caché une partie. Ils ont osé mentir à Dieu. Et qu'est-ce que Pierre leur dit? On lit dans Actes 5, 9. « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront, toi aussi. » Les deux sont morts ce jour-là. Dieu, dans le fond, montrait qu'il est le même Dieu qui ne peut pas supporter cela, une attitude de rébellion, de le tenter comme cela. Heureusement, Dieu est d'abord un Dieu de miséricorde, de grâce. Et on va voir ce jour-là qu'il, il n'a pas détruit Israël, comme il aurait pu le faire. Il aurait pu dire, « Comment osez-vous vous liguer pour tenter l'Éternel? C'en est fini, vous mourrez, et je repars un nouveau peuple avec mon serviteur Moïse. » Mais il est lent à la colère, un Dieu qui a une longue patience. Mais ça nous parle aussi. On doit faire attention à la manière dont on s'adresse à Dieu. C'est au roi de l'univers qu'on s'adresse lorsqu'on prie, lorsqu'on lui présente nos requêtes aussi. Et c'est bon de sonder notre cœur, parce qu'avec les mêmes mots, on peut vouloir dire plusieurs choses. Parfois même, on peut être en train de forcer la main de Dieu. L'insistance dans la prière peut être bonne, ça peut être une marque de foi, mais parfois ça peut cacher une insoumission, un refus de passer au travers une épreuve que Dieu nous met sur notre route, un refus d'accepter ce que Dieu a prévu pour nous, le plan qu'il a. Jésus lui-même, lorsqu'il a été mis à l'épreuve dans le désert pendant 40 jours, il a été tenté par Satan. Et Satan lui a proposé justement de démontrer qu'il était réellement le Fils de Dieu. On lit dans Matthieu 4, 5 et 7, 5 à 7, « Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça a l'air pas pire. En plus, le diable, il cite les Écritures. Mais Jésus lui répond, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Jésus, en exigeant, dans le fond, de son Père d'effectuer ce miracle inutile, et même qui allait clairement contre la volonté de Dieu, c'était pas le plan du Père que le Fils fasse là, ce jour-là. Et on peut deviner les répercussions négatives aussi qu'il y aurait eu par la suite. Mais bon, Jésus, en faisant cela, il aurait forcé la main de Dieu. C'était tenter Dieu. Il aurait péché contre son Père. Et ici, les Israélites ont clairement échoué le test de foi. Ils jouent, c'est comme s'ils sont en train de négocier, de vouloir jouer au bras de fer avec leur Dieu. Donc, ils ne sont pas un exemple à suivre. C'est même un bon exemple à étudier pour éviter de refaire la même chose. Mais tout dans l'Ancien Testament est écrit pour notre instruction. Parfois, c'est un bon exemple, parfois, c'est un mauvais exemple. Ici, c'est un exemple typique à ne pas faire. Mais heureusement, dans le même passage, on a l'exemple de Moïse, qui est un bon exemple de foi. Alors que tous l'accusent, qui sont contre lui, et il refuse d'embarquer dans ces mêmes murmures-là, d'embarquer dans un jeu de reproches mutuels. Et même si tous sont contre lui, c'est comme si tout à coup il est seul face à toute la communauté d'Israël. Même s'il reçoit des reproches, même des menaces, il persévère dans son obéissance, sa soumission à son Dieu. On voit sa foi qui se démontre vraiment dans l'action, là où ce que tout à coup le danger est là, lorsque ça devient chaud, lorsque ça devient même parfois, on pourrait dire, justifié d'agir d'une manière pas trop correcte, mais lui, il demeure fidèle. C'est dans ce genre d'épreuve-là qu'on voit la foi d'une personne, si elle est sincère ou non. Pas quand tout va bien, tout est facile. Deuxièmement, on voit la foi de Moïse dans sa réaction. Après qu'il est menacé et qu'on lui exige de donner de l'eau au peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. Il ne se tourne pas vers des solutions humaines. Il ne s'apitoie pas sur son sort non plus. Il ne va pas se cacher dans une caverne. Il se tourne vers Dieu. C'est ça son réflexe. Et il crie à Dieu pour chercher le secours. « Que ferai-je pour ce peuple? » Dans d'autres traductions, c'est écrit « Que ferai-je de ce peuple? » Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Ce n'est pas évident à traduire, mais de toute façon, ce qu'il dit à Dieu, c'est « Je ne sais plus quoi faire. » Même ils me menacent, ils veulent me lapider. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis impuissant. Et il crie à Dieu. Mais en faisant cela, en fait, il démontre vraiment qu'il est prêt à suivre les consignes de son Dieu. S'il demande à Dieu quoi faire, ça sous-entend qu'il est prêt à le faire. En tout cas, du moins en parole, il le dit. Puis la foi, s'il se tourne vers Dieu, il a la foi que Dieu va lui donner des consignes qui sont bonnes à suivre. Tout le reste du peuple ne se tourne même pas vers Dieu. C'est comme s'il ne s'en soucie pas. Il nous a conduits ici alors qu'on a soif, on mourir de soif, on ne veut plus écouter ce qu'il a à nous dire. Mais Moïse, lui, continue à écouter Dieu. Puis, troisièmement, on voit sa foi à l'œuvre alors que Moïse fait, fait preuve de sa foi en obéissant à Dieu, alors que humainement, scientifiquement même, toutes les probabilités sont contre lui. Moïse vient justement de dire à Dieu, encore un peu, là, et le peuple va me lapider, ils vont me lancer des pierres, ils vont me mettre à mort. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? La première chose, passe devant le peuple. Aïe, aïe. Selon les probabilités, là, c'est pas un plan qui est très... Il n'y a pas des bonnes chances de marcher, là. Mais Dieu lui dit, OK, tu crains le peuple, aussi la première chose que je te demande, passe devant le peuple. Ça met vraiment sa foi en exercice. Dans le fond, ce qu'il lui dit, c'est ne crains pas le peuple. Continue de me craindre, moi. Le peuple ne peut rien te faire si c'est moi qui accomplis ma volonté. Ensuite, il lui demande de faire une action qui semble totalement inutile aussi. De prendre son bâton et de frapper une roche, frapper un rocher. Il faut vraiment avoir la foi en Dieu, en la puissance de Dieu, pour croire que de l'eau va couler d'un rocher après l'avoir tapé d'un bâton. En plus, c'est peut-être ironique, mais le mot Horeb, le rocher de Horeb, Horeb veut dire sécheresse. Le rocher de la sécheresse, si on le frappe dessus tout à coup, va abreuver tout, plus de 2,5 millions de personnes. Ça prend vraiment la foi pour le faire. En plus, il lui dit d'amener les anciens d'Israël avec lui, les responsables qui ont la plus grande influence sur le peuple. Il va les conduire avec lui pour être témoin de ce geste-là qu'il va faire. Un geste qui a l'air complètement ridicule. Il doit le faire en présence des anciens d'Israël. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr qu'il est mort, là. Mais Moïse suit exactement les consignes de Dieu. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et la foi de Moïse est récompensée, et aussitôt de l'eau sort en grande quantité et peut abreuver tous les Israélites. Et non seulement Moïse est sauvé, mais même tout le peuple est sauvé. Dieu nous demande d'agir en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, avec cette même foi-là. Dieu ne nous demande pas nécessairement de porter des gestes comme cela, de frapper un rocher, mais ce qu'il nous demande d'agir, la manière dont il nous demande d'agir au jour le jour, exerce notre foi. Parce qu'aux yeux des hommes, c'est inutile. On lisait hier soir, lors de la soirée où on a passé un examen de Timothée et Célestin, on étudie 1 Timothée 4, 8 à 16, où c'est Dieu qui nous parle ici par la main de Paul. Il dit « Exerce-toi à la piété ». Ça veut dire de consacrer sa vie à vivre en fonction de... qu'on sait qu'il y a un Dieu qui est là et on veut le servir, avoir une relation intime avec Dieu, de s'exercer à cela, car il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Pourtant, aux yeux des gens de l'époque, de cette région-là, l'exercice corporel était utile à beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, même l'exercice corporel est mis en très haute valeur. Plusieurs choses sont mises en valeur aussi, qui sont jugées comme très utiles, comme une bonne alimentation, par exemple. Mais si Dieu nous dit que la piété, c'est ce qui va être le plus utile. Car la piété est utile à tout. Et là, la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est vraiment un pas de foi de faire cela, de croire à cela, croire que d'avoir une action religieuse peut avoir un quelconque effet bénéfique dans la vie. C'est vraiment par la foi qu'on le fait. On croit dans la promesse de Dieu. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, dans le Dieu qu'on ne voit pas, une espérance dans un prix qu'il va nous donner à la fin de nos jours qu'on ne voit pas encore, qu'on ne peut pas toucher. Il nous est demandé de croire sans voir. Dieu qui est le sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, donc on comprend à la lecture des Écritures, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à cela. Beaucoup diraient que c'est une perte de temps monumentale. En fond, quelqu'un qui consacre le gros du temps dans sa vie là, à étudier la Bible, à partager ce qu'il apprend à ses frères et sœurs, à les exhorter, à enseigner, Aux yeux du monde, c'est une folie. C'est vraiment une perte de temps. Les années passent si vite, tu ne vas pas perdre quand même autant de temps à faire une chose inutile et vaine. Mais Dieu nous dit qu'au contraire, c'est la chose qui est la plus utile. C'est vraiment un acte de foi que d'obéir à Dieu et de le faire, de s'exercer et de s'appliquer à la lecture de la Bible. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains du collège d'anciens. Applique-toi, sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'entourent. Les répercussions de quelqu'un qui vit par la foi font en sorte qu'il sera béni, mais non seulement lui, mais tous ceux qui l'entourent aussi. On voit un exemple avec Moïse. Il a suffi d'un homme qui agit avec foi et tout le peuple a été sauvé, a pu boire ce jour-là. Les répercussions sont immenses. Donc, observons ce que Dieu nous prescrit et obéissons. Et observons maintenant celui qui les a sauvés. Parce qu'on voit que c'est par la main de Moïse que le peuple d'Israël a été sauvé ce jour-là. Mais on comprend que c'est Dieu qui a sauvé Israël. Les Israélites, en fait, se trouvent sauvés par l'Éternel qu'ils viennent justement d'accuser de vouloir les faire mourir. Ils viennent d'accuser Dieu de les avoir conduits dans le désert, les avoir fait quitter un pays où ils pensent qu'ils étaient mieux, pour les conduire intentionnellement dans le désert pour qu'ils meurent, là, eux et leurs troupeaux, leurs familles, leurs enfants. Et Dieu les sauve. C'est toute une démonstration de la grâce de Dieu. Une démonstration de l'amour en action de Dieu envers un peuple qui ne le mérite pas. Et le psaume 78 rend témoignage à cela. Psaume 78, 15. « Et Dieu fendit des rochers dans le désert et leur donna à boire des flots abondants. Du roc, il fit sortir des ruissellements et descendre des eaux comme des fleuves. » Sa bénédiction a été grande. Un grand fleuve est sorti de ce rocher. C'est aussi une démonstration de sa fidélité à ses promesses. On voit Dieu à quel point il est fidèle malgré les murmures du peuple. On lit dans le psaume 105, « À leur demande, il fit venir des cailles, il les rassasia du pain du ciel, il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent et se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il s'est souvenu de la promesse faite à leur père. Et bien que les descendants d'Abraham, ce jour-là, ne méritaient pas, il s'est souvenu de son engagement, de son alliance avec Abraham, et il l'a honoré. Un Dieu fidèle à toute épreuve, fidèle à ses promesses. Et de l'eau est sortie de ce rocher, puis le symbole du rocher, c'est la première fois qu'il est si évidemment mis en place, et il va rester ce symbole-là pour le reste des Écritures. On le voit dans le restant de l'Ancien Testament, même le symbole revient dans le Nouveau Testament. On parle souvent du rocher d'Israël. C'est Dieu, en fait, qui se montre sous la forme du rocher d'Israël, le rocher où on peut trouver sécurité, délivrance, appui, et ce jour-là même le salut, la vie. Mais j'aimerais ce matin que vous considériez avec moi le symbolisme derrière ce geste, derrière le geste que Dieu a commandé à Moïse. Vous êtes d'accord, le peuple d'Israël méritait ce jour-là d'être frappé par Dieu. N'est-ce pas? Oui. Alors que Moïse vient se plaindre à lui, Dieu était déjà au courant de toute façon. Il aurait pu frapper sévèrement le peuple. Et ça aurait été juste de la part de Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, « Prends le bâton avec lequel tu avais frappé le Nil. » Et c'est lorsque Moïse avait frappé le Nil, le fleuve d'Égypte, c'était vraiment en signe que Dieu est en train de détruire ou de rendre à néant ce qu'eux considéraient comme un dieu. Les Égyptiens considéraient le Nil comme étant une de leurs plus grandes divinités. Et Dieu le réduisait à l'impuissance, même lorsqu'il a été frappé. C'était comme un jugement sur ce faux dieu-là et sur les Égyptiens qui l'adoraient. Et il a été forcé, même, il s'est ouvert, il a été forcé de laisser passer le peuple de Dieu. Et par la suite, le Nil qui était censé protégé les Égyptiens, c'est le Nil lui-même qui a détruit l'armée des Égyptiens. Mais on a vu que tout cela s'est passé après que Moïse ait frappé le Nil avec son bâton. Et Dieu, quand il dit à Moïse ici de prendre le bâton et d'avancer, de passer devant le peuple, on se serait attendu à ce qu'il dise « Maintenant, tu vas frapper Israël avec ce même bâton-là. » Mais non, il dit « Tu vas aller frapper le rocher. » Et c'est ce qui est le plus étonnant ici, c'est que Dieu s'identifie même avec ce rocher-là. Il dit « Je me tiens sur le rocher. Je suis là. » Je ne sais pas si Moïse pouvait le voir d'une forme visible. Peut-être qu'il y avait la colonne de nuée qui s'est avancée sur le rocher. Peut-être qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Ou peut-être simplement qu'il l'a su, que Dieu était là. De toute façon, Dieu lui a dit « Je suis sur le rocher. Je suis là. » Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il lui dit « Je suis sur le rocher. Frappe le rocher. » Frapper Dieu? Lorsque Dieu sur le rocher faisait en fait de ce rocher un lieu saint même. Où on voit ailleurs, lorsque Dieu se présente et qu'il dit « Je suis dans cet endroit-là », même il prend la peine de dire « Enlève tes sandales, c'est un lieu saint. » Là, Dieu lui dit « Frappe le rocher. » Donc, au lieu que le peuple soit frappé, soit frappé, c'est Dieu ce jour-là, comme symboliquement, qui encaisse le coup. Il dit « Tu vas me frapper, moi, et des fleuves d'eau vive vont couler, je vais abreuver le peuple. » Un symbole fort, le peuple a été abreuvé gratuitement, sans avoir rien à accomplir, vraiment par pure grâce. Et le Nouveau Testament nous apprend dans 1 Corinthiens 10, vous pouvez tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens 10 au verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. C'est un peu énigmatique ces paroles ici, mais une chose est claire. Paul est en train de nous dire que le rocher qui les a abreuvés, c'était Christ, la présence du Fils de Dieu parmi eux. Le Christ avec eux. Donc, ce rocher-là symbolisait la présence de Dieu, et même, on comprend à la lumière du Nouveau Testament, qu'il symbolisait Dieu parmi les hommes, parmi son peuple qui vient, qui est prêt à prendre le coup pour que son peuple puisse être sauvé. C'est un symbole fort, dans le fond, du Messie qui allait être annoncé plus en détail par la suite par les prophètes, qu'un jour le Messie viendrait, Dieu lui-même qui viendrait sous la forme d'un homme sur la terre, et c'est lui qui prendrait les coups à la place du peuple pour que le peuple puisse être sauvé. On lit dans Ésaïe 53, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » C'est comme si l'action violente de Moïse ce jour-là, qui aurait pu frapper le peuple, de manière juste même, et cette violence-là s'est déferlée sur le rocher, qui symbolisait en fait un jour que Dieu allait prendre les coups à notre place, payer pour nous sauver. Et Jésus a été frappé effectivement à la croix jusqu'à en mourir. Alors que c'est nous qui méritions d'être frappés par Dieu. On l'a chanté ce matin à quel point Dieu nous aime. On lit dans Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il l'a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, que personne ne meure de soif, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et depuis ce jour-là, depuis le jour où Jésus a été frappé, de l'eau vive s'écoule de lui, une eau qui ne s'éteindra jamais, qui ne tarira jamais. Jésus dit dans Jean 4, 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette eau vive, on comprend que ce n'est pas seulement symbolique, c'est quelque chose de réel. C'est le Saint-Esprit que Jésus nous envoie lorsque nous croyons en lui. Il dit dans Jean 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais il annonçait cela. Une fois que j'aurai été crucifié, glorifié, je vous enverrai l'Esprit. Et celui qui a soif et qui viendra à moi, il pourra boire, et même des fleuves d'eau vive couleront en lui. Et comme les Israélites, ce jour-là, ont été abreuvés gratuitement, ils n'ont rien eu à faire, Dieu ne leur a pas même demandé des actions de pénitence. Ils ont eu simplement à boire et ils ont été épargnés et de la condamnation et de la mort sur laquelle, vers laquelle ils dirigeaient. Mais comme ça leur a été offert gratuitement, mais l'eau du Seigneur Jésus est offerte aussi gratuitement. Il ne nous est pas demandé de mériter notre entrée au ciel, mériter la vie éternelle. Elle nous est offerte en cadeau. On lit dans Ésaïe 55, « Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. » Et Ésaïe est en train de prophétiser sur la venue de Christ. « Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. » Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit que toute cette Écriture-là a été accomplie. C'est fait. Il dit dans Apocalypse 21, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. » Donc, croyez en Jésus. C'est ce que vous avez à faire. Par la foi, même si c'est une folie pour le monde, croyez que c'est vrai, c'est vraiment le plan de Dieu. Il veut vous sauver, il veut vous donner de l'eau à boire par son Fils Jésus qui est mort pour vous. Engagez-vous à le suivre, à rejeter tout péché, tout murmure, toute insatisfaction, toute tentation contre Dieu. Suivez Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. C'est une promesse. Et comme Dieu, on voit qu'il tient sa promesse avec le peuple d'Israël, il va tenir sa promesse avec son peuple. Nous aurons la vie éternelle. Et le fait que le salut est gratuit, par contre, ne veut pas dire qu'il n'est pas précieux. Comme Isaac l'a dit en entrée de jeu, au début du culte, il a coûté très cher à Dieu. Il a coûté ce qu'il y avait de plus précieux pour lui, c'est la vie de son fils. Le prix que Dieu a payé est extrêmement élevé. Et ce qu'il demande maintenant, c'est de ne plus vivre comme si Dieu n'était plus là. Mais au contraire, c'est de s'exercer à la piété, et de vivre en tout temps, dans toutes les sphères de notre vie, en étant conscient que Dieu est là, de servir Dieu sincèrement. Il veut qu'on lui parle même, comme le chant de Hermite et Sandra dit tout à Jésus. C'est la volonté de Dieu. Et c'est pas un hasard, je crois, qu'il y a un épisode semblable à celui-ci du peuple d'Israël qui est près de mourir de soif et qui crie à l'aide, et Dieu fait sortir de l'eau d'un rocher. L'autre épisode se passe dans Nombre 20. Et là, c'est différent. Dieu dit à Moïse de parler au rocher et non de le frapper. Le geste de devoir frapper, ça a été fait une fois pour toutes et ce n'est plus redemandé. C'est ce qui me convainc encore plus du symbolisme de ce geste-là. Mais Moïse, on comprend maintenant la gravité de son erreur. Il a frappé le rocher. Une deuxième fois, et Dieu n'a pas été content de cela. Et ça lui a même coûté l'entrée en Canaan. Dieu voulait que Moïse parle au rocher, que le peuple comprenne vraiment que Dieu est là, qu'il est présent, qu'on peut lui parler, on peut être en relation avec lui. Dieu a sacrifié une fois son fils Jésus. Et contrairement à ce que certaines églises professent, il n'a pas besoin d'être resacrifié régulièrement pour qu'on bénéficie de sa grâce. C'est une fois pour toutes, son sacrifice a une valeur éternelle. C'est fini le temps des sacrifices. Le temps où on doit accomplir des punitions pour réussir à obtenir la grâce de Dieu. La grâce couvre tous les péchés. Ce que Dieu s'attend de nous, c'est qu'on se réconcilie avec lui, qu'on lui demande pardon en comptant sur ce sacrifice-là. Le sacrifice unique où Dieu nous a sauvés de la soif en nous abreuvant par Jésus-Christ. Sinon, ceux qui... une autre manière aussi de pécher contre cela, c'est une fois qu'on a compris que Jésus a payé pour nous. Quand on a compris cela, dans le fond, qu'on bénéficie même de la grâce de Dieu d'avoir saisi cela, on a même fait partie de sa famille. Et finalement, après avoir compris que Jésus nous a sauvés gratuitement, de le rejeter. La Bible nous dit que c'est comme si on le crucifiait à nouveau. On lit dans Hébreux 6, « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit-Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, mais qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient à nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. » C'est comme s'ils forçaient la main, ils tentent Dieu, comme si Dieu devait à nouveau sacrifier son Fils pour eux. C'est comme s'ils exigeaient de Dieu qu'il frappe à nouveau. Donc, quand nous souffrons, rappelons-nous de notre situation avant d'être sauvés. Rappelons-nous que notre situation était bien pire. Nous étions assoiffés, sans rien pour remplir ce vide. Et on pouvait courir après toutes sortes de breuvages dans la vie, mais rien ne pouvait vraiment étancher cette soif spirituelle. Et nous étions en voie de mourir de soif, d'une mort éternelle. Mais notre rocher, le rocher d'Israël, nous a sauvés. Ne suivons pas le mauvais exemple des Israélites qui ont ce rocher-là pour les guider, pour qu'ils s'appuyaient, sur lequel s'appuyer. Ne tentons pas le Seigneur comme si nous n'avions pas été sauvés, comme si Dieu n'était pas présent. Ne doutons jamais de la présence de Dieu. Ne le tentons pas en désobéissant à sa volonté. Même parfois, ça peut être par ignorance. On va pécher contre lui, donc prenons la peine d'étudier sa parole pour connaître sa volonté. Ne le tentons pas non plus en lui forçant la main, en le provoquant, en lui exigeant une réponse. On entend parfois des prédicateurs qui nous disent qu'on doit ordonner pour que Dieu nous entende. Je ne suis pas sûr, mais c'est Dieu qui reste souverain et qui va, il va répondre comme il le veut, selon sa volonté. Et supportons plutôt patiemment l'épreuve sans murmurer. Crions à Dieu pour sa délivrance, mais supportons, si ça prend un an avant que Dieu nous délivre, prions pendant un an. Si ça prend plus d'années encore, prions. On a parfois la réponse à une prière bien des années plus tard. Parfois, Dieu nous fait la grâce aussi de nous répondre sur le champ. On peut tous en témoigner. Mais faisons confiance que Dieu entend nos prières. Suivons l'exemple de Moïse qui a crié à Dieu pour obtenir le secours. C'était le bon réflexe à faire. Il a cru en la puissance de Dieu qui était capable de faire ce que les hommes n'auraient jamais pu faire. Il a cru en la fidélité de Dieu. Rappelons-nous que Dieu est fidèle à ses promesses. Il a craint Dieu au lieu de craindre les hommes. Même si vous vous trouvez dans une situation où tous sont contre vous, mais vous savez que vous êtes innocent, vous n'avez seulement suivi la volonté de Dieu, tournez-vous vers Dieu, persévérez. Dieu va vous délivrer. Honorons par notre vie entière le rocher qui nous a sauvés. Confions-nous en lui. Dans Isaïe 26, on lit, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen.
Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, brise mon désir. Smile.